Pour ouvrir ces séances de séminaire sur la recherche des œuvres perdues, j'ai demandé à Antoine Compagnon, comme je le disais tout à l'heure, Antoine Compagnon, que nous aimons tous ici beaucoup et que nous ne voulons pas voir s'éloigner trop tôt de ces murs. Donc j'ai demandé à Antoine Compagnon de donner une série de conférences, deux conférences d'une heure aujourd'hui et la semaine prochaine, ainsi qu'une conférence de deux heures le 18 janvier. Sur le sujet. Donc, il n'y aura pas de cours le 18 janvier, je le rappelle, le séminaire commencera dès 16h30 pour le 18 janvier. Et Antoine Compagnon m'a fait le plaisir et l'amitié d'accepter. Et donc, sa série de conférences s'intitule « Les livres que Roland Barthes n'a pas écrits ». J'ai donc la joie de lui céder à présent la parole, et je crois même que nous pouvons le saluer chaleureusement.
Bien, je suis très heureux de vous retrouver en ce début de janvier 2022, puisque ça fait 15 ans ou 16 ans que je vous retrouve toutes les premières semaines de janvier. L'an dernier, il y avait eu la prolongation des cours de l'année précédente différée en raison de la pandémie. Alors, lorsque William Marx m'a invité à donner 4 leçons dans le cadre de son cours de cette année, intitulé « À la recherche des œuvres perdues », je me suis demandé laquelle de mes curiosités de derrière la tête pourrait répondre à ce programme. Œuvres perdues, œuvres dissimulées, œuvres abandonnées, œuvres trahies, œuvres secrètes, œuvres inabouties. J'ai le sentiment de posséder moi-même un certain nombre d'œuvres de ce genre dans ma mémoire. Je veux dire dans ma mémoire artificielle, dans la mémoire de mon ordinateur, dans mon disque dur ou dans les nuages, puisque c'est aujourd'hui dans les nuages que nous déposons notre mémoire et nos archives. Les nuages contiennent donc une longue liste de dossiers laissés en plan, d'entames, de bribes, de déchets. Depuis que j'ai quitté le collège et que je n'ai plus comme mandat d'inventer chaque année un cours sur un nouveau sujet, il me semble qu'il est temps de mener à leur terme quelques-uns de ces ouvrages en suspens. De choisir parmi les dossiers abandonnés ceux qui mériteraient d'être relancés, poussés et peut-être achevés. Or, parmi ce que je peux appeler mes œuvres perdues, si j'ose donner ce nom à ces épaves nuageuses, je me suis rappelé que figurait justement un début de recherche sur certaines œuvres perdues. C'est une recherche que j'ai amorcée il y a longtemps déjà, puis négligée, oubliée, et je me suis dit que William me donnait l'occasion de la reprendre et peut-être de l'achever. Cette enquête abandonnée portait sur les livres que Roland Barthes n'a pas écrits. Et je l'avais amorcé à l'occasion du centenaire de sa naissance en 2015. Vous vous rappelez peut-être le colloque qui a eu lieu notamment ici pour célébrer cet anniversaire, puisque c'était le jour des attentats du Bataclan et que le colloque a été interrompu par les attentats. Et le premier jour avait eu lieu, la deuxième journée a été reportée de quelques mois. Cette année-là, donc à l'automne de 2015, j'avais donné deux communications qui tournaient autour de ce sujet. La première à Londres, à l'invitation de Diana Knight et de Michael Sheringham, malheureusement disparu peu après. Et la seconde conférence à New York, à l'invitation de Colette Fellous et de Tom Bishop, dont j'ai appris hier la disparition dimanche, et qui était un ami que je connaissais depuis plus de 40 ans. Je voudrais donc leur délier ces 4 leçons. Ainsi, bien sûr, qu'à Igor et Grishka Bogdanov, qui étaient avec moi au séminaire de Barthes en 1973, je crois, ces deux jumeaux qui faisaient une thèse ensemble, puisqu'ils ne se sont jamais séparés, une thèse avec Roland Barthes sur la science-fiction. Et on peut espérer que leur mort sera un élément de propagande pour la vaccination de tous les Français. Ce travail, donc, avait pris trop d'ampleur pour tenir dans un article et pas assez pour mériter un livre, si bien que cette cote mal taillée m'a conduit à le laisser reposer dans les soutes de ma machine. Et je voudrais réveiller pour vous cette belle endormie, trop courte pour un livre, trop longue pour un article, et j'en ferai donc un feuilleton de 3 semaines. Voilà le prologue à cette recherche sur les œuvres perdues de Roland Barthes, et bien sûr, tous mes vœux de saison, le plaisir de vous revoir sous le masque d'une vedette américaine. Vous savez, au music-hall, on appelle vedette américaine celle qui chauffe la salle à l'entracte, hein, avant l'entrée de la vedette en titre. La vedette entre en scène après la vedette américaine. Ici, on a inversé, et j'espère que je ne vais pas trop vous refroidir. Roland Barthes se plaignait beaucoup d'être accablé de demandes. Il en souffrait. On lui envoyait des textes à lire, des inconnus lui écrivaient ou l'appelaient au téléphone pour solliciter des rendez-vous, des articles, des entretiens, des conseils, des recommandations. Il ployait sous ce qu'il appelait le poids de la gestion. Et il en est beaucoup question dans ses derniers cours au Collège de France. William parlait de ceux de Valéry, ceux de Roland Barthes ici, dans les 2 dernières années, intitulés « La préparation du roman » en 1979-1980, reviennent souvent sur cette pesanteur de la gestion à laquelle il donnait un grand G, comme si elle était allégorisée. Une grosse partie de ses journées, disait-il, était gaspillée, détournée des tâches essentielles. Je cite ce cours, 5 heures au travail créatif, 5 à la gestion. C'est énorme, la gestion pure entretien coûte autant que la création. C'est pourquoi il rêvait de ce qu'il appelait une vita nova, qu'il aurait libéré des pressions de la demande et du boulet des requêtes. Ses amis se lassaient de cette lamentation perpétuelle qui se terminait d'habitude par l'aveu de son fantasme de changer la vie, rompre et inaugurer. C'est ce qu'il annonçait, par exemple, ici même, aux auditeurs de sa conférence intitulée « Longtemps je me suis couché de bonheur » en octobre 1978. Il rêvait d'en finir avec la répétition, l'éternel recommencement des articles, la monotonie du métier, le retour saisonnier des cours et des conférences, l'éternel recommencement. Le ronron, autrement dit, boulot, dodo, métro, la variante de l'intellectuel, pour reprendre un slogan de l'époque, ce que Barthes appelait aussi le bagne. Ici, au Collège de France, pour lui, c'était le bagne, avec un grand B, ce qu'il définissait par la forclusion du nouveau. La décision du 15 avril 1978, Casablanca, qui est relatée dans ce cours, la préparation du roman, est présentée comme une authentique révélation, une conversion, comme la conversion de Claudel ou celle de Pascal dans le mémorial. Et cela signifiait que, pour lui, à partir de cette date, toute la vie serait désormais consacrée à la littérature, au projet du roman, tandis que les besognes parasites, la gestion, seraient proscrites. La première conséquence de cette résolution de vita nova, de retraite, souvent reproduite, hein, mais jamais exécutée fermement, puisqu'il y revient tout le temps, fut que Barthes changea de numéro de téléphone et se fit mettre sur ce qu'on appelait à l'époque la liste rouge. J'ai retrouvé la lettre où il m'indiquait son nouveau numéro en me recommandant de ne le répéter à personne. D'une part, vous le voyez, l'aiguillon de la demande lui était nécessaire. La commande lui réussissait. Il dépendait du flux constant de cette demande et de cette commande. C'est comme ça qu'il répondait à la question « quelque chose plutôt que rien » parce qu'on lui commandait quelque chose. Il travaillait, il avait besoin de cette stimulation de l'élan que donnaient les délais à respecter, le coup de pied des retards accumulés. Il savait bien que presque toute sa production avait commencé sous la forme de commandes. Depuis ses premiers articles de combat pour Maurice Nadeau en 1947 et ses feuilletons sur Brecht dans Théâtre populaire à partir de 1953. Ces commandes des journaux et des revues l'avaient longtemps dynamisé, puis pressuré. Existence, Esprit, Lettres nouvelles, L'Observateur, plus tard Critique, Communication, telle qu'elle. Au début, des aînés lui avaient mis le pied à l'étrier, j'ai cité Nadeau. Plus tard, lorsqu'il était devenu une autorité, il aurait été indélicat de résister trop longtemps à l'insistance d'un directeur amical, mais tyrannique, quand la survie d'un périodique dépendait de sa contribution. Aussi se laissait-il faire en rechignant. Mais il cédait toujours. À l'automne de 1971, dans un entretien bien connu intitulé « Réponse », qui est publié dans le numéro que la revue telle qu'elle lui consacre, c'est le numéro 47, son interlocuteur Jean Thibaudeau se montre curieux de sa manière de travailler. Et c'est le premier texte autobiographique de Barthes qui est assez long, bon, il y en aura beaucoup d'autres après, et voici ce qu'il confie à Jean Thibaudeau. « Je n'ai jamais écrit qu'un seul texte « pour rien », entre guillemets. Mon premier texte, celui que j'ai montré à Nadeau en 1946, qui n'a pas été publié, mais qui a déterminé les demandes suivantes. À part ce premier texte, tous mes autres textes ont été écrits à la demande, lorsqu'on me laisse libre du sujet, ou à la commande, si l'on me donne le sujet, ce dont je ne me plains pas forcément. En somme, j'ai toujours écrit pour répondre à l'incitation de quelqu'un. On attendrait peut-être invitation, mais incitation est évidemment beaucoup plus fort et donne cet impétus que j'évoquais. Ainsi, au cours de sa carrière, Barthes aurait écrit un seul texte pour rien, c'est-à-dire sans but, sans résultat, mais aussi sans contrepartie, sans rémunération. Comme on dit en allant au marché, c'est donné, c'est pour rien. À titre gracieux, pro bono, Il s'agit vraisemblablement d'un texte perdu, en voilà un, mais retrouvé, comme beaucoup de textes perdus. C'est l'avenir de la rhétorique, un texte intitulé « L'avenir de la rhétorique », qui est une critique de l'histoire littéraire dans la tradition de Gustave Lanson et une préfiguration d'une histoire des formes que le degré zéro de l'écriture ébauchera. Le manuscrit a été retrouvé, il est à la Bibliothèque nationale, dans le fonds Barthes, et il a été publié dans l'album en 2015, justement. Tout le reste, par la suite, aurait répondu à une commande ou à une demande, que Barthes distingue par l'imposition ou non du sujet. Formulé en 1971, cet aveu inclut donc SZ, qui est publié en 1970, ou L'Empire des signes, ce beau livre chez Skira, également publié en 1970. Si bien que dans un pastiche à la manière des biographèmes que Barthes avait introduit dans Sade Fourier Loyola en 1971, Louis-Jean Calvé, qui est l'auteur d'un des premiers livres, je crois que c'est même le premier livre sur Barthes, peut avancer en 1973, hein, c'est un pastiche des biographèmes de Barthes, Barthes n'écrit que sur commande. Non sans ironie, Barthes reprit cette formule à son compte au cours du séminaire de janvier 1974, qu'il consacra à l'écriture du Roland Barthes par Roland Barthes. Son séminaire est la préparation de ce Roland Barthes par Roland Barthes. Une séance est intitulée « Atelier sur le biographématique » et il reprend le biographème de Calvé. C'est pourquoi Barthes peine de plus en plus sous les travaux en instance. Il ne sait pas dire non, il répugne à blesser par un refus, il court derrière le temps, comme il dit, il fait l'autruche, c'est une expression qu'il emploie beaucoup, mais il rend tout de même sa copie pour finir, après que l'on a retardé pour lui la remise du manuscrit. Et il éprouve le vertige de cette contradiction entre l'asservissement à la demande, dont la productivité le grise, et la gratuité de l'écriture, idéalement pour rien, inutile, ne servant à rien, constituant une fin en soi. Pour répondre aux commandes, il fonctionnarise l'écriture, son travail, le transforme en besogne d'employé avec ses horaires de bureau et il lui dédie ses matinées scrupuleusement assis à sa table où s'entassent les devoirs. Écrire pour répondre à une demande, écrit-il dans le même entretien, ou plutôt répond-il dans le même entretien, écrire pour répondre à une demande ou à une commande est une tâche, entre guillemets. La contradiction peut être résumée comme celle-là même de l'écriture, j'ai envie de dire de toute écriture, de tout travail d'écriture, qui est à la fois un mystère et un métier. Je suis sûr que j'ai déjà joué sur ces mots au cours des années passées, ces deux mots qui sont inséparables par l'étymologie qui les lie à la racine. Métier dérive de ministerium, confondu avec mysterium, dans la personne du prêtre, en latin médiéval. Mystère et métier. Baudelaire, qui mena une vie on ne peut plus dérégler, rêva tout au long de sa vie de suivre une discipline de travail, ce qu'il appelait hygiène dans les fragments de ce qu'on appelle ses journaux intimes. Il y avait en son fort intérieur quelqu'un qui n'était pas du tout bohème, qui admirait l'ascèse des grands artistes. Chaque fois que Baudelaire parle de Delacroix, ce qu'il exalte, c'est ce régime de travail. De Delacroix, il dit « Les artistes les plus inventifs, les plus étonnants, les plus excentriques dans leur conception sont souvent des hommes dont la vie est calme et minutieusement rangée. Plusieurs d'entre ceux-là ont eu les vertus de ménage très développées. N'avez-vous pas remarqué souvent que rien ne ressemble plus au parfait bourgeois que l'artiste de génie concentré ? » Tel était Barthes, dont les amis connaissaient par cœur ce double discours sur la commande qu'il vivait à la fois comme une peine et comme un bienfait, Croce et Delizia, comme une imposition et comme une incitation, c'était son mot. Il faisait son autoportrait en supplicié et en héros, en victime consentante d'une demande universelle. Et quand il employait ce mot, il l'entendait de plus en plus, peut-être pas au début des années 50, il l'entendait au sens de Jacques Lacan, le grand maître à penser de l'époque, un maître qui impressionnait beaucoup Roland Barthes et qu'il redoutait. Lacan plaçait la demande, dont il parlait beaucoup, entre le besoin et le désir. Dans cette définition, la demande s'adresse originellement par le nouveau-né à sa mère, ce qui fait que la demande ne peut pas être repoussée. Toute demande est au fond une demande d'amour totale, absolue et folle. En 1971, Barthes livrait déjà à Thibaudeau sa chimère de libération de la demande, son espoir d'évasion de ce cercle vicieux qui transformait son existence en bagne. Il lui disait « Ces derniers temps, je forme souvent ce rêve, écrire un texte libre, entre guillemets, conçu en dehors de toute demande. » Autrement dit, un texte pour rien, comme il ne l'a jamais fait depuis 1946. Mais cette condition était fatale, le piège était inéluctable, à cause du pouvoir que la demande sociale, la demande que l'on adresse comme à la mère, à cause du poids que cette demande exerçait sur lui. Il était donc plus facile de changer de science, de langage, comme il l'a souvent fait, que de récuser la demande. La liberté était une utopie, tandis que la réalité, disait-il, toujours dans le même entretien, était celle d'une demande, cette fois-ci il souligne le terme, assez précise, issue de la collectivité telle qu'elle est, une commande si l'on veut. Donc toute demande est de fait une commande. La demande est insidieuse, et même si elle semble plus douce, plus indirecte, elle n'en représente pas moins une commande, c'est-à-dire un commandement, un impératif. De fait, la demande est plus exigeante que la commande. La complainte de Barthes est amplifiée à plaisir dans les dernières leçons qu'il a données ici, en 1979-1980 sur la préparation du roman durant les semaines qui précédèrent son accident devant le Collège de France et sa mort. Ce qu'il appelle donc les tâches de gestion avec un grand G l'éloigne de l'essentiel, le sépare de l'œuvre désirée, du roman, cette vita nova à l'état de projet. Et pour lui, la gestion commence dès qu'un manuscrit est bouclé, dès que le manuscrit entre dans le cycle de la production éditoriale et de la fabrication matérielle. Je cite la préparation du roman, « Cette gestion est pénible parce que l'œuvre faite, elle tombe pour l'écrivain dans l'inessentiel au profit de l'œuvre à faire. L'œuvre faite devient factice, artificielle, inessentielle. Aussitôt le manuscrit achevé, le livre est dévalué par l'industrie qui s'en empare et le transforme en produit commercial. Barthes se réclame ici, il le fait souvent, de Flaubert, qui écrivait en 1862, après Madame Bovary et Salammbô, « L'œuvre qui vient d'être faite me devient absolument indifférente. Et si je la fais voir au public, c'est par bêtise et en vertu d'une idée reçue qu'il faut publier, chose dont je ne sens pas pour moi le besoin. » Beaucoup d'œuvres perdues, ainsi justifiées par cette absence de nécessité de la publication. Barthes juge exagéré ce ressentiment de Flaubert contre la publication. Il n'en revient pas moins souvent à cette déclaration. Il cite souvent Flaubert, qui tranchait dès 1853, à l'âge de 32 ans, il n'avait encore rien publié, mais il écrivait déjà « Au fond, c'est fort bête de publier ». Flaubert annonçait là l'un des stéréotypes des années 1970. Ne pas publier l'emporte en grandeur, en intelligence, sur publier. Toute publication est une imposture. Lacan orthographiait le mot « poubellication ». Barthes est quelqu'un qui a plutôt beaucoup publié, même s'il a commencé assez tard, à près de 40 ans, mais jamais sans état d'âme, sans cette pensée de Terrière, sans cette mauvaise conscience partagée par beaucoup dans cette génération, sans cette ambivalence qui faisait de la publication un pis-aller, un compromis, une concession, un expédient, une échappatoire par rapport à l'essentiel. L'écrivain supérieur, c'est celui qui ne publie pas. Le vrai écrivain, c'est celui qui ne publie pas. À l'instar de M. Teste décrétant « La bêtise n'est pas mon fort ». Le plus grand des écrivains, c'est l'écrivain en puissance. Et beaucoup d'écrivains ont eu ce fantasme. Lorsque j'ai fait un cours il y a quelques années ici sur Proust essayiste, je crois que c'était à cette occasion, je parlais des rapports de Chateaubriand et de Joubert. Chateaubriand pensait que Joubert était beaucoup plus intelligent que lui. Et après la mort de Joubert, c'est Chateaubriand qui a publié ses pensées posthumes. Et je me souviens d'avoir fait un cours sur Jiménez Doudan dans la génération suivante, inconnu, oublié, perdu, mais dont tous les contemporains pensaient qu'il était le meilleur d'entre eux, le meilleur d'entre nous, le plus intelligent, dont ils publièrent après la mort la correspondance et les pensées. Et j'imaginais que Jiménez Doudan était important pour Proust, mais je n'en avais pas la preuve jusqu'au moment où on a publié, depuis ce cours, le carnet des lectures de Madame Proust, qui ne jurait que par Jiménez Doudan et le citait dans son carnet. Voilà donc un grand fantasme, et je dirais que tout écrivain qui n'a pas un alter ego meilleur écrivain que lui parce qu'il n'a rien écrit n'est pas un vrai écrivain. Depuis Orphée, célébré par Barthes comme par Maurice Blanchot, l'achèvement de l'œuvre représente une chute, la mort de l'idéal, le sacrifice du désir. Barthes rêvait donc de se soustraire aux demandes pour écrire enfin, c'est-à-dire ne pas écrire, en tout cas ne pas publier. Il imaginait de se protéger des agressions de la gestion, toujours avec un grand G, comme d'une divinité chtonienne. Il projetait de refuser les demandes de la vie pour se consacrer à l'œuvre. Il aurait voulu apprendre à dire non afin de se réserver pour l'essentiel. Tout cela, donc, non pas pour publier, ce qui aurait été bête, bourgeois, comptable, mais pour écrire intransitivement, écrire avec une majuscule. Son attitude était profondément ambiguë en face de la demande ou de la commande, faite à la fois de servitude et de rébellion, comme on se comporte avec une drogue dont on dépend au jour le jour. Cette drogue qui est à la fois le remède et le poison. Quand Thibaudeau lui demande en 1971 les raisons qui l'ont retenu de publier un livre sur le théâtre en réunissant ses articles des années 50 en grande abondance, la réponse de Barthes est très simple. Simplement parce que personne ne me l'a demandé. Comme si une moindre demande l'aurait assez motivé, aurait été une incitation suffisante pour écrire ce livre sur le théâtre. C'était plus compliqué en vérité. Quelques années plus tard, il hésita longuement sur l'opportunité d'une telle publication, se mit à la tâche, je m'en souviens bien, commença à corriger quelques articles avant d'abandonner. Au moment de sa mort, ce projet était en panne. Il a été réalisé depuis par Jean-Loup Rivière. La demande ou son absence pouvait aussi servir de prétexte et masquer la déflation du désir. Vous imaginez bien que si je m'intéresse à cette question de la demande et de la commande chez Barthes, bon, c'est aussi parce qu'elle me touche personnellement, comme j'imagine tous ceux qui écrivent et qui publient. Je ne m'appesantirai pas trop sur ma propre attitude vis-à-vis de la commande, mais je pense qu'elle est aussi ambiguë que celle de Barthes. Je dirais simplement que toute commande me pétrifie, comme la méduse. Dès que l'on me commande un texte, je suis incapable de l'écrire, parce que je ne le désire plus. C'est pourquoi je ne signe jamais de contrat. Et c'est même pire avec l'âge. Il y a quelques années, je me souviens, lorsque j'ai publié « Les chiffonniers de Paris », qui sortaient à la rentrée, j'ai reçu, au mois de juillet, un appel inquiet de Pierre Nora parce que le livre était sous presse et que je n'avais jamais renvoyé le contrat. Avec mon dernier livre, « La vie derrière soi », j'ai fait encore mieux puisque le livre a paru en septembre et que je viens de signer le contrat 3 mois plus tard. je perds les contrats, par définition. Il vaudrait sans doute la peine de mener une petite étude sur les tactiques des gens de lettres face à la commande et à la demande. Peut-être que ça pourrait faire l'objet dans ce cours d'un intérêt. Certains la recherchent, en ont besoin, d'autres les évitent comme une malédiction. Parmi les œuvres perdues qui seront examinées par William Marx cette année, il faudrait certainement tenir compte de toutes les commandes qui restèrent lettres mortes, qui tombèrent à l'eau. Je dis, les écrivains ont des attitudes variées face à la demande et à la commande. Claude Lévi-Strauss, par exemple, je le dis pour Monique qui est là, il usait de la demande et de la commande tout autrement que Barthes, ce qui ne surprend pas. Lors de son retour en France en 1948, c'est justement à la date où Barthes se lançait, répondant à des commandes dans toutes les directions, Claude Lévi-Strauss écrit à son ami Roman Jakobson pour lui dire sa surprise à son retour à Paris de découvrir ce monde de la demande et de la commande et sa méfiance à l'égard de ce fonctionnement. Il lui écrit « Vous n'imaginez pas à quel point on est ici sollicité d'écrire à droite et à gauche, c'est-à-dire de tous les côtés, mais je pense aussi que ça veut dire des deux bords politiques. Lévi-Strauss était décidé à ne pas s'engager, car, dit-il, le grave danger et que toute votre production risque d'être déterminée par la demande et la commande, associant les deux termes comme Barthes, et qu'on conduise sa pensée en fonction des sollicitations du moment. » Et lui emploie le mot « sollicitation » comme un détournement, alors que Barthes emploie « incitation » comme un premier moteur. Bien que tous deux fussent identifiés au structuralisme, l'anthropologue et le sémiologue se ressemblaient fort peu, intellectuellement et existentiellement, y compris dans leur comportement devant la commande. L'éthique de Barthes, du moins à ses débuts, n'était pas non plus celle d'Igor Stravinsky, que je cite, et qui disait « Le truc, bien sûr, est de choisir ses commandes, de composer ce que l'on a envie de composer et de se le faire ensuite commander. » C'est sans doute la meilleure attitude. Barthes, lui, acceptait les commandes, quitte à se demander après coup comment, non pas se défausser, mais les fausser. Les tricher, tricher la commande, c'est son éthique. Écrire sur commande, cela n'est jamais indifférent, et je crois que cela laisse toujours des traces. Cela ne manque pas d'avoir des effets imprévus, des effets que je serais tenté de qualifier de pervers. Non pas au sens banal où on appelle effet pervers en sociologie, en politique, les unintended consequences d'une réforme. C'est l'argument type des conservateurs. Ça ne vaut pas la peine de faire des réformes parce qu'il y aura des effets pervers qui seront pires que ce que l'on voulait réformer. Non, je veux dire que toute commande a des effets véritablement pervers, de perversion ou de perversité. Une commande donne l'envie de désobéir, comme quand on était enfant, de résister à la tutelle, de détourner ou de subvertir les termes du contrat. La moindre des audaces consistera à soutenir une thèse paradoxale ou un point de vue radical qui aura la valeur d'une transgression et d'une provocation. Il suffit de pensez à ce qu'on appelle les ghostwriters en anglais, et pour lesquels nous n'avons plus de terme en français aujourd'hui, qui laissent toujours une signature perverse dans les textes auxquels ils collaborent anonymement, si bien que ceux qui utilisent leurs services, on en connaît beaucoup de cas, sont souvent accusés de plagiat quelque temps plus tard. Voilà la perversion liée à la commande. Une commande met dans la situation que Barthes qualifiait d'écrivance quand il opposait l'écrivance et l'écriture, l'écrivant et l'écrivain. Une conception instrumentale du langage par opposition à l'écriture, car le maître d'ouvrage, celui qui commande ou qui commandite, attend du signataire un produit conforme au contrat. Aussi faut-il ruser pour se dégager de la contrainte, satisfaire la demande, sans s'y soumettre tout à fait, mais sans aller jusqu'à s'exposer à un refus. D'où ce que j'appelle cette perversion ou cette perversité. On cherchera à donner un texte en porte-à-faux par rapport au sujet imposé. Ce devoir d'insoumission me semble avoir joué très fortement chez le premier Roland Barthes. Dans les années 1950, avant qu'il ne soit casé lors de son recrutement à l'école pratique des hautes études et que sa carrière prenne une tournure plus assurée. N'oublions pas que ses débuts n'ont pas été faciles. Après des années de sanatorium, une fois guéri, mais attardé par une longue marginalisation due à la maladie, alors que sa situation professionnelle et sociale reste précaire, il accepte de nombreuses commandes qui paraissent parfois alimentaires. Ainsi, dans une lettre à Jean Cayrol de juillet 1953, il mentionne ce qu'il appelle l'obligation biannuelle du chèque mensuel qui lui impose la corvée de faire un article pressé. C'est un article pour Théâtre Populaire, revue dont il fut pourtant l'un des fondateurs et à laquelle il tient. Il n'empêche qu'un article est une corvée liée à un chèque dont il a besoin. Ce serait d'autant plus le cas de ses collaborations à Club, le bulletin du Club du meilleur livre que j'avais mis en frontispice de cette leçon, mensuel promotionnel qui fait la réclame pour les volumes publiés par la société d'édition en question, le Club du meilleur livre. Dans les recensions que Barthes donne de L'étranger, de Camus, en avril 1954, puis de La peste en février 1955, quelques mois plus tard, les circonstances de la publication sur commande dans un bulletin publicitaire ont pu contribuer à l'aigreur de la critique. Albert Camus faisant les frais de la manière subversive que Barthes croit à propos d'adopter dans un bulletin publicitaire. Ces années 50 ont été la belle époque des clubs de livres en France, entreprise elle-même équivoque, promue par des francs-tireurs, des aventuriers de l'édition. Introduite aux États-Unis, le Book of the Month Club date de 1926, et en Suisse, la Guilde du Livre date de 1935. La vente des livres par correspondance et par abonnement, suivant les techniques du marketing direct, a pris son essor en France peu après la Libération, afin de meubler les rayonnages des pavillons de banlieue. Les livres entrèrent grâce aux clubs dans les foyers des classes moyennes. Et c'était des livres de semi-luxe, d'apparence plus cossue. Ils étaient reliés, couverts de tissus, un peu avant le livre de poche. Les clubs ajoutèrent bientôt à leur catalogue les disques, tourne-disques et meubles de rangement, proposant aussi des rencontres, sorties et spectacles. C'est vraiment la naissance de la société de consommation à travers les livres. Voici quelques-uns de ces clubs qui apparurent dans les années de l'après-guerre en France. Eh bien, Roland Barthes a collaboré à tous ces clubs intensément dans les années 50. La première de ces sociétés d'édition d'un genre nouveau, c'est le Club français du livre, fondé en 1946. L'un des fondateurs revenait des États-Unis où il avait séjourné pendant la guerre. C'est ce Stéphane Aubry. Et l'autre était Paul Stein, et c'est son nom de guerre, Jean-Paul L'Hôpital, qui l'a conservé. Ces clubs ont prospéré au cours des années 50 avant de décliner au début des années 1960. Comparés aux éditions courantes, les livres sont jolis, reliés de carton recouverts de toiles colorées et estampées, avec des illustrations, des ornements, des graphismes fantaisistes. D'après des maquettes dessinées, il y a eu deux grands illustrateurs qui sont là, dont on connaît bien les noms, Pierre Faucheux et Robert Massin. Barthes donna au Club du français du livre, celui-ci, le premier, l'un de ses textes bien connus, Les insolentes introductions aux tragédies de Racine, recueilli ensuite dans Sur Racine. Et je pense que l'insolence de ces préfaces aux tragédies de Racine est liée à la publication elle-même, c'est-à-dire une publication, sinon lowbrow, pour employer un mot anglais, en tout cas middlebrow. Je pense que l'insolence est liée au lieu. Le directeur littéraire de ce Club français du livre est un homme important, c'est Robert Carlier, qui ensuite passe au Club du meilleur livre, le Club du meilleur livre étant une filiale de Hachette et de Gallimard pour réagir au Club français du livre. Et le Club des libraires de France, c'est une réaction des libraires. Bernard Gerbrand, certains se souviennent peut-être de lui, c'était le directeur de la librairie et de la galerie La Une, boulevard Saint-Germain. Vous voyez qu'il y a un premier club fait par des francs-tireurs, un deuxième club, réaction de Hachette et de Gallimard, un troisième club, réaction des libraires. Barthes est partout dans ces années-là. Barthes est partout. Ces clubs publient d'abondance, le Club du meilleur livre, filiale de Gallimard et Hachette, publie 271 titres entre 1952 et 1961, c'est-à-dire près d'une trentaine par an. Et c'est Massin, ce graphiste célèbre, qui est le directeur artistique. Barthes restera lié à Massin. C'est lui qui rendra compte en 1970, dans la quinzaine littéraire, de ce beau livre de Massin, La lettre et l'image. Massin, vous le voyez, est décédé seulement l'année dernière. On en a un peu parlé à ce moment-là. Barthes fut donc un collaborateur diligent de ces trois clubs les plus répandus dans les années 1950, le Club français du livre, le Club du meilleur livre et le Club des libraires de France. Pour mieux apprécier la portée sociologique de ces diverses contributions du jeune Barthes, il nous faudrait une petite mythologie du book club à la française. Auprès des saponides et détergents, de la nouvelle Citroën ou de la littérature, selon Minou Trouet. Autre vogue contemporaine décodée dans ces mythologies. Barthes n'a malheureusement pas offert de critique idéologique du marché littéraire transformé par les book clubs, mais il a pu se racheter de sa participation à ce secteur américanisé et vulgarisé de l'édition française en rendant des préfaces ou des recensions qui n'étaient pas tout à fait ce que ses commanditaires escomptaient, en pervertissant la commande. C'est pourquoi le contexte social, bourgeois ou petit bourgeois dans lequel parurent ces textes, commandés par les book clubs, ne semble pas avoir été pour rien dans leur ironie ou leur humeur ou leur dureté, comme s'il importait de se démarquer de l'attente. L'étranger, paru au club du meilleur livre, donc le club Hachette-Gallimard, en 1954, d'après une maquette de Massin, comme pour tous ses ouvrages. L'illustration de la couverture avait été obtenue en déformant la photographie d'un photographe qui avait son heure dans ces années 50, Patrice Molinard. Voici les pages de garde. Vous voyez que ce sont d'assez jolis livres. Camus laissa donc paraître l'étranger sous ce cartonnage toilé des clubs. Alors qu'il s'était opposé et qu'il s'opposa longtemps à la grande diffusion de son premier roman au format de poche. L'étranger entra dans le livre de poche avec cette couverture dont nous nous souvenons tous, qui a une sorte de mythe de notre enfance. L'étranger entra dans le livre de poche en 1959 seulement, 5 ans après l'édition Club. Le graphisme était aussi dû à Massin, puisqu'entre-temps, Massin était passé dans la filière Gallimard-Hachette. Le livre de poche était Gallimard-Hachette. Les livres de poche de ces années étaient de très beaux objets. Sartre pensait qu'on les jetterait après les avoir lus, mais tout le monde les a conservés. En faisant cette étude, j'ai découvert que le dessinateur de toutes ces couvertures, on oublie le nom des artistes qui ont fait toutes ces couvertures, c'était Lucien Fontanarosa. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais lorsque je suis arrivé comme élève à l'école polytechnique, il était le professeur de dessin. Et c'est lui qui initiait les élèves au dessin d'après modèle vivant. Ce qui était une grande récompense quand on arrivait à l'école, puisque jusque-là, dans les classes préparatoires, on faisait seulement du dessin d'après la bosse. Voilà Lucien Fontanarosa. Au fond, toutes les couvertures de mon enfance, je les dois, je ne le savais pas, à Lucien Fontanarosa. Les faux monnayeurs, le diable au corps, le voyage au bout de la nuit, et j'en passe, les jeunes filles ou ces magnifiques voyageurs de l'impérial. Les spécialistes de Camus n'aiment pas trop son Meursault, trop gracieux. Je ne suis pas sûr qu'il lui préfère la silhouette inquiétante tiré par Massin lorsque Gallimard s'est retiré du livre de poche, entreprise commune avec Hachette, et a lancé Folio. Le numéro de Folio, c'est les deux de Folio, c'est l'étranger. Et vous voyez que Massin a repris l'illustration du Club du meilleur livre de 1954, s'inspirant de la même photographie. Et Massin dira dans ses souvenirs, « Curieusement, c'est cette même image dont je me resservirai pour la couverture de l'étranger dans Folio. En matière d'illustration, Camus ne m'a jamais beaucoup inspiré. » L'article de Barthes dans Club, donc la revue publicitaire du Club du meilleur livre, le voici. L'étranger, roman solaire par Roland Barthes. Il figure dans un numéro dont j'adore la couverture. C'est ce que je vous avais mis en frontispice. La couverture de Club en avril 1954 montre le siège du Club, puisqu'on pouvait s'y rendre. C'était en somme un avatar des cabinets de lecture du XIXe siècle. C'était situé au 3 de la rue de Grenelle, entre la rue du Dragon et la rue des Saints-Pères. Je viens de vérifier en venant tout à l'heure que c'est aujourd'hui une boutique de la chaîne de magasins de vêtements COS. Beaucoup de ces librairies et de ces cafés du quartier ont été transformés en magasins de vêtements. Et vous voyez que les abonnés étaient invités à se rendre dans la boutique pour un moment de loisirs studieux auprès de leurs congénères. La décoration était très à la page. Elle me rappelle les réclames pour les rayonnages modulables, les réclames emplissaient les feuillets du bulletin ou encore la scénographie d'un film de Jacques Tati sur les manies contemporaines. Barthes, il loue le roman de Camus, mais non sans condescendance. Il le traite de fait social et il le compare à la pile électrique ou à la presse du cœur, autre objet moderne de consommation, comme les livres par abonnement. Vous voyez qu'à défaut de nous donner une petite mythologie du book club, l'article de Barthes commence par un décodage sociologique ou sémiologique de l'étranger, condamnant l'engouement bourgeois ou petit bourgeois pour l'œuvre de Camus. Le roman, dit-il, met la philosophie de l'absurde à la portée de la consommation du grand public intellectuel. Consommation du grand public intellectuel. C'est ce que j'appelais lowbrow ou middlebrow. Il propose, je cite toujours Barthes, un mythe nouveau de la liberté, une sorte de digest, entre guillemets, de tous ces thèmes. L'absurde, la liberté. C'est assez dédaigneux. Et le mot « digest » en 1954 fait immanquablement penser à la sélection du « Reader's Digest », version française du mensuel américain qui vise un lectorat point trop exigeant et qui pénètre le marché national en même temps que les livraisons des clubs. En outre, ajoute Barthes, c'est un petit livre couler dans cette forme chérie des Français, le roman dense et menu comme un joyau. Ainsi, vous le voyez, l'étranger était parfaitement adapté à sa déclinaison en club, puisque sa version originale de 1942 était déjà un objet de consommation. Après ce début de persifleur, Barthes admet tout de même que, dit-il, l'œuvre vieillit bien. Voilà encore pour la condescendance. Mais tout l'article est écrit sur ce ton supérieur avant de concéder. Et n'oublions pas qu'on est dans un bulletin publicitaire pour les livres du club avant de concéder que la beauté initiale du roman n'a pas été anéantie par les années. Quelques mois plus tard, si vous me donnez encore quelques minutes, en février 1955, c'est au tour de La Peste de paraître dans le club du meilleur livre, de nouveau avec une maquette de Massin, vraiment grand graphiste, celle-ci reproduisant une gravure de Holbein sur la couverture. Le livre de poche, alors ça, je ne comprends pas l'attitude de Camus, parce que le livre de poche est paré en même temps. Donc il s'est opposé à L'étranger en poche, mais il a fait passer La Peste de Camus, La Peste en poche beaucoup plus tôt, dès 1955. Et alors, je ne connais pas le nom du dessinateur, c'est pas Fontana Rosa, CS, on ne sait pas qui c'est. Bon, il a été beaucoup question de La Peste depuis 2 ans, tout le monde a relu La Peste, y compris moi. Mais je ne l'ai pas relu sous cette couverture parce que je garde précieusement ces livres pour ne pas qu'ils s'abîment. Barthes prend le roman d'encore plus haut, dans Club, bulletin publicitaire, sous le titre « La peste, annale d'une épidémie ou roman de la solitude ». Ses réserves sont cette fois sans appel. Le livre décrit un monde privé d'histoire, fonde les rapports humains sur une éthique de l'amitié, expose une morale, non une métaphysique. Même si, dit-il, les personnages ne font pas l'autruche, toujours cette image que Barthes adore, solidarité et sympathie définissent, dit-il, un monde d'amis, non de militants, c'est-à-dire de sujets réduits à la solitude devant les combats de l'histoire. C'est une descente très radicale de La Peste et cette intervention se situe donc en 1955, après la rupture de 1952 entre Jean-Paul Sartre et Camus, à la suite de L'homme révolté, et la critique de Barthes est très proche de celle de Francis Janson, qui s'était montré très sévère pour le mythe de Sisyphe et qui avait été chargé de rendre compte de l'homme révolté dans les temps modernes. Bon, c'est un éreintement que l'article de Janson, et qui peut se résumer en une expression, c'est une morale de Croix-Rouge. Camus, c'est une morale de Croix-Rouge, dont la conception de l'histoire revient à la supprimer en tant que telle. Bon, les critiques de Barthes reprennent littéralement ces griefs et cela fait songer que Francis Janson dirigeait alors la collection Écrivaine toujours au Seuil et c'est lui qui venait donc d'éditer le Michelet par lui-même de Barthes en 1954. Ainsi, vous le voyez, le Club du meilleur livre, filiale de Gallimard, la maison d'édition de Camus, republie L'étranger et la peste sous reliure toilée à l'intention des lecteurs qui apprécient le semi-luxe. Barthes est chargé de faire la réclame pour les romans dans le bulletin du club, mais il ne fait aucune concession, ne montre pas la moindre indulgence. Je me demande si ce n'était pas ce que désiraient secrètement les responsables du club, qui étaient des francs-tireurs de l'édition, issus de la Résistance et du PCF. Ils n'étaient pas dupes dans leur concept commercial, plus proche de Sartre que de Camus en 1955. Ils firent tout de même passer ils firent tout de même passer à Camus le texte de Barthes. Alors c'est très intéressant parce que voilà le bulletin, vous avez l'article de Barthes, et au milieu de l'article de Barthes, il y a la réponse de Camus, dans le même numéro qui interrompt le texte de Barthes. Camus répondit par une lettre qui parut dans le même numéro, au milieu de l'article, et après s'être assuré très obligeamment que Barthes ne s'opposait pas, Camus est un homme qui connaît les usages, il s'est assuré que Barthes ne s'opposait pas à ce procédé inhabituel, la réponse qui accompagne l'article. Camus écrit, c'est en tête de l'article, « Ayant dit à M. Carlier que je n'étais pas d'accord avec votre thèse sur la peste, celui-ci m'a proposé de publier mon point de vue en même temps que le vôtre. » Vous voyez la sorte de négociation qui a lieu là, prévenant pour un auteur de la maison Gallimard, le gérant du club n'a pas voulu faire paraître le texte de Barthes sans l'agrément de Camus. Dans sa lettre, celui-ci récuse... Camus, la morale anti-historique et la politique de la solitude que Barthes lui impute et auquel la peste aurait encouragé, puis il demande au nom de quelle morale plus complète Barthes lui intente procès. Barthes répondra dans le numéro suivant de la même revue du Club. Barthes répondra dans le même suivant et c'est là où il montrera le bout de l'oreille, Barthes répondra, c'est au nom du matérialisme historique. Et les responsables du club seront sans doute très satisfaits. Vous voyez qu'on a là une profession de foi marxiste, une adhésion proclamée au matérialisme historique, qui peut tout de même faire sourire quand on sait le contexte dans lequel elle se trouve. Le bulletin du club du meilleur livre, dont le public était, comme disait Barthes, le grand public intellectuel, c'est-à-dire le public, sinon lowbrow ou middlebrow, en anglais on a aussi l'expression broadbrow, qui inclut le low et le middle. Ce public moyen, c'est les nouvelles couches sociales des années 50, que l'on désignera bientôt sous le nom de cadre. Et on peut se souvenir que la FNAC a été fondée, Fédération nationale d'achat des cadres, a été fondée, comme ses clubs, par des proches du PCF en 1954. Ces cadres qui achètent des livres, qui achètent des tourne-disques et qui achète ces meubles modulables Oscar que proposent les numéros de Club. Voilà la publicité pour les meubles Oscar dans Club, dans le numéro où il y a l'article de Barthes. Et ces meubles, il y a même un concours dans Club où on peut gagner des éléments Oscar pour ranger sa bibliothèque et sa discothèque dans sa salle de séjour. Ben, je terminerai sur ces meubles Oscar qui m'ont amusé ou ému, parce que mes parents en achetèrent leurs premiers éléments en 1954, justement, quand ils s'installèrent à Paris, avant de les compléter quelques années plus tard, en 1957 ou 1958, quand ils revinrent à Paris. Ils n'étaient pas adhérents au club du meilleur livre, mais à la Guilde internationale du disque qui allait avec, et c'est avec les disques de la Guilde qui se présentaient comme ça que j'ai reçu mon éducation musicale. Et ma mère était abonnée au World Books, qui était l'équivalent anglais dont j'ai encore certains livres. Quant aux meubles Oscar, où l'on rangeait L'étranger et la peste de Camus, que Barthes traitait avec tant de condescendance, eh bien, j'en ai hérité. Et cette merveille du design 4e République abrite aujourd'hui mes volumes de la Pléiade. Voici. Ces meubles Oscar qui faisaient de la réclame dans les numéros de Club, le magazine du Club du meilleur livre, filiale de Gallimard, où Barthes éreintait Camus sur commande. J'arrêterai là pour aujourd'hui.